une semaine d'actualité.
Bonjour, samedi 23 juillet, durant tout l'été, nous sommes avec vous pour continuer chaque semaine à cette heure-ci à vous proposer une sélection de 7 jours d'événements.
Pierre-Édouard Delbic.
Et un clin d'œil aujourd'hui aux candidats au bac au Sénégal qui, jeudi, dans l'épreuve Histoire-Géographie, ont eu un sujet sur les Nations Unies. Turquie, États-Unis, Libye, telles seront quelques-unes de nos destinations aujourd'hui, sans oublier la France, bien sûr, après l'attentat de Nice le 14 juillet dernier. L'état d'urgence a été prolongé et l'optimisme n'est pas vraiment de mise au sein du gouvernement. Écoutez par exemple ce que disait le Premier ministre Manuel Valls mardi à l'Assemblée nationale.
Nous serons confrontés à d'autres attaques. Et même si ces mots sont difficiles à prononcer, c'est mon devoir de le faire. Il y aura d'autres attentats et il y aura d'autres innocents tués. Nous devons non pas nous habituer, jamais, qui peut s'habituer à l'horreur, mais apprendre à vivre avec cette menace, à vivre avec elle et à la combattre.
Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez retrouver sur notre site rfi.fr. Cette semaine, notre invité est Michel Elchaninov, le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, auteur chez Stock d'un document d'un livre qui s'intitule « Les nouveaux dissidents ».
7 jours dans le monde.
Dans quelques minutes, nous partirons pour la Turquie après la tentative de coup d'État et pour les États-Unis à l'occasion de la convention républicaine qui a sacré, vous le savez, Donald Trump. Mais d'abord, j'accueille notre invité. Bonjour Michel Elchaninov.
Bonjour.
Arrêtons-nous d'abord dans un pays que vous connaissez bien, Michel, la Russie. Russie dont les athlètes ne participeront probablement pas aux Jeux Olympiques de Rio qui commencent le 5 août prochain. Martin Guez.
Yelena Isinbayeva et Sergei Choubenkov peuvent dire adieu au JO de Rio. La double championne olympique de saut à la perche et le champion du monde du 110 mètres haies ne verront pas le Brésil, les 66 autres athlètes russes ayant fait appel non plus. Au cœur du cyclone, suite au scandale de dopage organisé dans le pays, les sprinteurs, fondeurs ou lanceurs espéraient être repêchés pour les JO. Mais le tribunal arbitral du sport a refusé leur requête ce matin en rejetant leur appel. Le TAS respecte ainsi la décision de la Fédération internationale d'athlétisme qui a suspendu depuis novembre l'athlétisme russe de toute compétition. Le président britannique de cette fédération, Sébastien Coe, a remercié le tribunal de son soutien dans la lutte contre le dopage. Le ministre des Sports russe, Vitaly Mutko, d'ores et déjà interdit de se rendre à Rio par le Comité international olympique, dénonce lui une décision politique et sans fondement juridique. Cette prise de position ferme du TAS pourrait s'avérer cruciale et inciter le Comité international olympique à exclure le sport russe dans son ensemble pour les prochains JO. En plus de l'athlétisme, 29 sports sont concernés par le scandale de dopage. Le CIO tranchera avant la fin de semaine. Le comité exécutif de l'instance se réunit dimanche. La seule athlète russe certaine de voir Rio, c'est la lanceuse d'alerte Yulia Stepanova, qui a révélé les affaires de dopage dans le pays. Mais la coureuse de 800 devrait concourir sous bannière olympique ou drapeau neutre, et non sous étendard russe.
Alors Michel, j'ai voulu qu'on commence cette émission en Russie, un pays que vous connaissez bien. Je rappelle que vous avez écrit, et vous étiez venu en parler dans cette émission, un livre passionnant qui s'intitule « Dans la tête de Vladimir Poutine, les repères en quelque sorte culturels du patron, j'allais dire du tsar de la Russie d'aujourd'hui ». Et c'est pour ça que je voulais qu'on commence en Russie. Là, on le sait, cette décision va être avalisée ou pas par le CIO dimanche, on verra. Mais en tout cas, ça serait un rude coup pour Vladimir Poutine, justement, si les athlètes russes ne pouvaient pas participer aux Jeux de Rio qui commencent dans quelques jours, dans 15 jours.
Oui, ça serait un coup terrible. La presse officielle et les médias vont expliquer que c'est évidemment une manipulation occidentale qui vise à empêcher les Russes de participer aux Jeux. Ce qui est intéressant, effectivement, avec cette histoire de dopage, c'est que ça nous renvoie directement à cette idéologie russe actuelle qui, d'un côté, tire beaucoup de choses de l'Union soviétique. On sait que Vladimir Poutine a été formé à cette période, à la période soviétique, et que pour lui, finalement, la valeur la plus importante, c'est le patriotisme vis-à-vis de cette grande puissance qu'était l'Union soviétique. Et on sait que une des pratiques phares de l'Union soviétique, c'était le dopage d'État. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques et le sport participaient de la diplomatie soviétique, et que le dopage était évidemment quelque chose de très important. Et donc, on peut penser que cette pratique continue aujourd'hui. Donc d'un côté, un peu de soviétisme, et puis de l'autre côté, beaucoup de nationalisme, parce que je pense que, déjà dans la presse russe, on le lit, que si les athlètes russes ne peuvent participer, il y aura une nouvelle vague de critiques de l'Occident. Et donc, actuellement, la deuxième partie de ce qu'il y a dans la tête de Poutine, outre ce soviétisme, c'est l'idée que l'Occident est hostile. Et depuis 2012-2013, Vladimir Poutine ne cesse de le répéter, l'Occident est notre ennemi. Donc, ça va sans doute renforcer cette passion-là.
Alors, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. C'est le premier vers d'un poème des châtiments, un poème de Victor Hugo que vous mettez en exergue de votre livre, Michel Etchaninov, Les nouveaux dissidents. Et il y a évidemment parmi eux des Russes.
Ah, évidemment, même on peut dire que ce mouvement a commencé. En URSS, donc en partie en Russie, dans les années 1960, après le dégel de Khrouchtchev, les langues ont commencé à se délier. Alors les dissidents, ce sont justement des personnes qui individuellement, sans appartenir à une organisation politique, sans vouloir prendre le pouvoir, décident de s'exprimer pour réclamer des libertés auxquelles ils considèrent avoir droit. Et les premiers dissidents soviétiques avaient une démarche qui était assez rusée, en fait. Il disait à l'État soviétique « Respectez votre propre constitution. La liberté de manifestation est inscrite dans la constitution. Nous manifestons pacifiquement. » Alors, évidemment, il se faisait arrêter. Il y avait des procès. Les dissidents allaient assister au procès, essayer de faire savoir que cet État soviétique qui voulait se faire passer pour un État de droit, en tout cas avec l'état de droit des travailleurs, eh bien, violait ses propres règles. Et donc, la dissidence, effectivement, ça a commencé en Union soviétique, et on peut dire que aujourd'hui, c'est en train de renaître, à la fois en Russie, sous un pouvoir très autoritaire de Vladimir Poutine, et aussi dans d'autres parties du monde.
D'ailleurs, vous avez connu, vous, Michel Etchaninov, quelques dissidents de la fin de l'Union soviétique.
Oui, d'abord, ils m'ont beaucoup fasciné, c'est-à-dire, pour moi, c'est des personnalités extrêmement courageuses. Et puis, ce que j'aime chez eux, c'est justement que ce sont des personnalités. Ce sont pas des petits soldats d'un parti, d'une organisation. Ce sont des hommes qui, en leur nom, mais évidemment au nom de toute la société, décident de prendre des risques énormes, mais pacifiquement, pour protester contre les injustices. Et donc, j'ai connu effectivement une femme extraordinaire qui s'appelait Natalia Gorbanievskaya, qui était allée, au moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique, par le pacte de Varsovie, elle est allée avec 7 personnes manifester sur la place Rouge. Vous imaginez ? La manifestation a duré 3 minutes, ils se sont fait arrêter tout de suite, ils se sont fait tabasser, elle a été envoyée en hôpital psychiatrique spécial répressif, bref, ils ont vécu des choses terribles, mais ils ont eu leur quelques secondes de liberté. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est des personnages extrêmement extrêmement touchants.
Courage et esprit de rébellion, écrivez-vous, c'est ça qui vous plaît. Hein.
Oui, c'est ça, courage, esprit de rébellion, et avec une méthode qui n'est pas violente, qui consiste à inventer des manières de se révolter totalement ouvertes, c'est-à-dire ils le font à visage découvert, ils ne se cachent pas, ce ne sont pas des clandestins, mais ils essayent d'inventer des manières de dire à tous qu'il y a des choses qui tournent pas rond dans leur pays.
Une semaine d'actualité.
Partons maintenant pour la Turquie, Michel Etchaninov. Après la tentative de coup d'État du 15 juillet dernier, depuis le pays vit au rythme des purges dans l'armée, bien sûr, ça rappelle aussi l'Union soviétique d'une certaine époque, mais aussi au sein de l'État, de l'université, par exemple, notre envoyé spécial Daniel Valo a fait un premier point mardi.
Les chiffres de la purge sont impressionnants. Plus de 6000 militaires, plus de 700 magistrats et une centaine de policiers placés en garde à vue. Il faut ajouter à cela plusieurs milliers de policiers, de gendarmes et de fonctionnaires démis de leurs fonctions. Le président Erdogan, dimanche dernier, avait donné le ton en affirmant qu'il fallait éliminer le virus de la faction qui avait tenté de s'emparer du pouvoir par la force. Les putschistes devront rendre des comptes pour chaque goutte de sang versé, a renchéri hier le premier ministre turc Binali Yildirim, ajoutant que le bilan humain du coup d'État avait été révisé à la hausse. Selon les autorités turques, les événements du 15 juillet dernier ont fait au moins 308 victimes. Les autorités d'Ankara ont donc décidé de poursuivre cette purge en l'étendant au rang de la magistrature et de la police. La purge se fera cependant dans le cadre du droit, a précisé hier le Premier ministre turc, déclaration qui vise à rassurer la communauté internationale et notamment les partenaires occidentaux de la Turquie qui s'inquiètent de voir le pays versé dans l'arbitraire dans la foulée de ce coup d'État manqué.
Rappelons aussi que mercredi, le président autocrate Erdogan a décrété l'état d'urgence pour 3 mois en Turquie. Correspondance d'Alexandre Billette.
C'est la première fois depuis le coup d'État de 1980 que l'état d'urgence est instauré en Turquie, en dehors des régions à majorité kurde du sud-est du pays. Une mesure nécessaire selon Recep Tayyip Erdogan pour préserver l'état de droit et la démocratie, alors que la tentative de coup d'État n'est peut-être pas terminée, a expliqué le président turc, qui s'est également adressé aux partenaires étrangers de la Turquie. « Personne n'a le droit de critiquer nos décisions », a également mis en garde Recep Tayyip Erdogan. Avec la mise en place de l'état d'urgence, les autorités ont désormais le pouvoir d'imposer des couvre-feux, de faire des perquisitions sans mandat, de contrôler les publications et les programmes audiovisuels et de prolonger les gardes-vues sans limite de durée. Une mesure adoptée alors que déjà plus de 60 000 personnes ont été arrêtées, licenciées ou suspendues de leur poste avant même la mise en place de l'état d'urgence.
À noter aussi dans l'actualité, en Allemagne, l'agression dans un train de 5 personnes à l'arme blanche par un jeune réfugié afghan chez lequel a été retrouvé un drapeau de l'organisation de l'État islamique qui a revendiqué d'ailleurs cet attentat.
Sept jours dans le monde.
Alors Michel Etchaninov, autre continent, autre sujet, autre contexte maintenant. Partons pour les États-Unis à l'occasion de la convention républicaine à Cleveland, convention qui a investi Donald Trump, que nous écoutons.
USA, USA. Together we will lead our party back to the White House.
Ensemble, notre parti retournera à la Maison Blanche. Notre pays retrouvera sécurité, prospérité et paix. Nous serons un pays de générosité et de chaleur. Mais nous serons aussi un pays où règne l'ordre public.
Et je vous propose d'écouter ce reportage à propos de cette convention de Cleveland, un reportage de notre envoyé spécial Anne-Marie Capomaccio.
La thématique sécuritaire a été exploitée sous toutes ses formes lors de cette convention républicaine de Cleveland. Un discours décrivant un pays qui a perdu ses valeurs, Donald Trump en a fait le point central de son allocution finale. Après la description, je le cite, « d'une Amérique livrée au chaos et à la violence endémique », le milliardaire l'a promis, il va restaurer l'ordre dès son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être politiquement corrects. Je suis votre voix, a clamé Donald Trump dans le stade de Cleveland en délire. Le milliardaire s'est ensuite lancé dans une longue diatribe contre Hillary Clinton, une ancienne secrétaire d'État dont le bilan se résume en trois mots, la mort, la destruction et la faiblesse. Fin de citation. Voilà pour le fond. Et sur la forme, eh bien, nous avons assisté à une sorte de discours de politique générale, très structuré, contrairement aux improvisations auxquelles le candidat nous avait habitués. Donald Trump a déroulé un programme dont le slogan n'était plus « rendre sa grandeur à l'Amérique », mais bientôt le retour à l'ordre.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie de Michel Etchaninov pour son livre « Les nouveaux dissidents », livre qui vient de recevoir un prix, je tiens à le préciser, Michel. Le prix Livre et Droits de l'Homme 2016 du livre sur la place de Nancy, c'est un des grands prix français, bravo, félicitations.
Merci beaucoup.
Il est mérité. Et dites-moi, je ne voudrais pas faire d'amalgame, Michel, mais l'époque commence à basculer, parce que Donald Trump, candidat sérieux aux États-Unis, sérieux dans la mesure où il a peut-être des chances d'être élu, coup d'État et renforcement des pouvoirs d'Erdogan en Turquie, je ne parle pas de Vladimir Poutine, drôle d'époque
qui se dessine. Je pense qu'effectivement il faut voir les choses de manière globale et que dans une grande partie du monde, on vit effectivement une période peut-être de basculement. Alors on ne sait pas évidemment ce qui va se passer dans les mois suivants, mais ce qui se passe c'est tout se passe comme si une partie de la population de démocratie ne croit plus aux anciennes formes de démocratie, disons, à une démocratie des droits, et réclame autre chose. Alors, en Russie, ça existe depuis plusieurs années sous Poutine, quand Poutine, citant des philosophes du début du siècle, dit « il faut pas une démocratie de la quantité », sous-entendu pas seulement une démocratie de la majorité, il faut une démocratie de la qualité, c'est-à-dire une démocratie où il y a un guide. Il faut un guide. Et c'est vrai que, à la fois du point de vue des acteurs comme Poutine, Erdogan, peut-être Trump demain, il y a cette idée que le peuple veut un guide. Et de l'autre côté, dans une partie de la population, il y a cette idée aussi que seul un guide pourrait nous tirer des ennuis du moment, qui sont nombreux évidemment. Donc nous sommes dans un moment peut-être de basculement d'une démocratie telle qu'elle a été exercée des années 1950-60 à nos jours, à des formes de démocratie beaucoup moins démocratiques et évidemment plus risquées parce que elles sont souvent accompagnées d'un discours de guerre et souvent accompagnées d'un discours de conflit, anti-américanisme, anti-Union européenne. Et donc, on est peut-être en train de basculer dans cette nouvelle période-là.
Vladimir Erdogan titrait hier Nicolas Bétou dans son journal L'Opinion. C'est un raccourci qui est plutôt bien vu. Hein.
C'est vrai qu'il y a une sorte de rivalité mimétique, pour reprendre un terme de Girard, entre ces deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, ce sont des personnes qui sont élues, qui jouissent d'une forte popularité, qui prennent des libertés avec les règles démocratiques, vis-à-vis des libertés, quand elles essayent de changer la constitution, etc., qui sont capables d'une grande brutalité et qui veulent s'appuyer sur une politique de la mobilisation. Et ça, je pense qu'il faut bien le comprendre. Nous sommes dans cette nouvelle démocratie, entre guillemets, de la qualité, démocratie du guide, dans des moments où on veut mobiliser le peuple. Quand Erdogan mobilise le peuple en disant aujourd'hui que peut-être que le putsch va continuer, ça veut dire que nous sommes aussi dans un moment où il risque d'y avoir des débordements contre des minorités, par exemple. Donc, on est dans ce moment de démocratie du guide où Poutine et Erdogan s'appuient sur la religion, s'appuient sur la mobilisation du peuple pour essayer de sortir de ce qu'ils appellent les démocraties formelles à l'occidental.
Alors, parlons des rebelles, Michel, pour conclure. On continuera dans la deuxième partie de l'émission, évidemment. Cette première partie, que nous apprennent au fond les rebelles du monde entier ? C'est la question que vous posez. D'abord, à bien nous servir des mots. C'est important.
Oui,
qualifier les choses.
Oui, c'est-à-dire que le mot dissidence aujourd'hui est utilisé par une partie de la droite, l'extrême droite radicale en France, par des gens type Soral et Dieudonné, qui disent que eux sont les dissidents d'un système gouverné par des élites mondialisées, etc., dans un discours totalement paranoïaque, ouais, et raciste et antisémite.
Les complotistes.
Voilà, les complotistes, il faut le dire clairement. Donc le terme de dissidence, qui est un mot qui me paraît d'abord très beau, qui a une histoire et qui, à mon avis, a une pertinence politique aujourd'hui, justement parce qu'il y a des nouvelles remises en cause de la démocratie aujourd'hui, en Turquie, en Russie, peut-être demain aux États-Unis.
Ah, vous notez très bien, d'ailleurs, Michel, dans votre livre, que c'est un mouvement qui a commencé il y a déjà quelques années, hein, au début des années 2000.
C'est ça, C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 90, il y a eu ce moment de démesure démocratique, je pense, où après la chute du mur de Berlin, eh bien, on a décidé de faire des guerres humanitaires, etc. Du coup, à partir des années 2000, ça a provoqué une rétractation dans certains pays. Et donc aujourd'hui, le phénomène de la dissidence, c'est-à-dire une rébellion non violente, plutôt individualiste et qui se fait à visage découvert, c'est, je pense, le terme qui correspond au retour de ce phénomène. Dans les années 60, on pouvait s'opposer à la dictature communiste. Aujourd'hui, contre des nouvelles formes, justement, de dirigisme et d'autoritarisme, il y a une dissidence qui renaît.
Alors, votre livre est un véritable tour du monde parce que vous êtes allé en Iran, vous êtes allé en Biélorussie, vous êtes allé dans d'autres parties du monde. Ce qui frappe aussi, c'est que ces dissidents aujourd'hui ont ce qu'on leur appelle les réseaux sociaux avec eux.
Hein. Ah oui,
c'est
bien
une
sûr.
Arme supplémentaire.
Parce que les dissidents d'avant, une fois, m'avaient dit, vous savez, si on avait eu Internet en Union soviétique, eh bien, le pouvoir soviétique serait tombé extrêmement vite. On n'aurait pas dû attendre 1991. Effectivement, ils ont les réseaux sociaux.
Même si l'Internet peut parfois être coupé.
L'Internet, censuré, en fait, c'est évidemment une arme qui est aussi utilisée par les pouvoirs. C'est-à-dire que les pouvoirs peuvent couper Internet. Les pouvoirs autoritaires peuvent aussi utiliser Internet pour contrer les dissidences. Il y a une propagande russe sur Internet qui est actuellement énorme. Donc Internet, c'est une arme à double tranchant, mais c'est évidemment une arme de mobilité, de fluidité dont se servent énormément les dissidents d'aujourd'hui.
Michel Etchaninov, nous allons marquer une pause, écouter quelques informations de ces dernières heures et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour à notre revue de 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction et notre invité Michel Etchaninov.
Une semaine d'actualité.
Dans quelques instants, nous prendrons bien sûr la direction de l'Afrique, mais il nous faut auparavant passer par la France. Après l'attentat de Nice qui a fait, vous le savez, 84 victimes le 14 juillet dernier, lundi, une minute de silence a été respectée en présence de Manuel Valls à Nice dans un grand climat de tension. Reportage de Richard Rifano et Sébastien Nemeth.
Lancée par un coup de canon, la minute de silence s'est transformée en salve d'applaudissements. Puis la foule a entonné une Marseillaise poignante pour montrer que la nation restait forte derrière ces symboles unis face au terrorisme. Mais l'union s'est lézardée deux fois. Le Premier ministre Manuel Valls a été copieusement sifflé au cri de démission lors de son arrivée et de son départ du site. Des sifflets que Fabien Niçois condamne fermement.
Siffler comme ça, lors d'une minute de silence, ça se fait pas du tout. Il y avait des gens qui commençaient à chanter, avec ces sifflements, ça a tout gâché. C'est pas respectueux des morts qu'il a eu. Je pense que le politique méritait plus de passer après ses hommages. Je trouvais ça franchement dégoûtant.
La tension est telle que certains pros et anti-sifflets en viennent presque aux mains. Anne-Marie était dans la foule. Après les hommages, elle était déboussolée.
Ces cadavres, ce qu'on a vu à la télé, ces morts, c'est affreux. Alors, comme on ne sait pas quoi faire, on vient là. Je suis là et je ne sais pas si ça fait du bien ou du mal, je ne sais pas.
La cérémonie s'est terminée sur une note positive. En quittant les lieux, secouristes et médecins présents aux côtés des officiels ont été applaudis comme des héros.
Une polémique est née à propos des mesures prises à Nice pour assurer la sécurité de ce 14 juillet. Des moyens insuffisants à en juger par les enquêtes du Canard enchaîné et de Libération à quelques jours d'intervalle. À Nice, mercredi, Stéphane Burgat.
Les témoins du drame ont été les premiers à demander des comptes. Cette promenade des Anglais était-elle suffisamment sécurisée? Chris Ojol n'en a pas eu l'impression.
Moi, personnel, j'avais que deux policiers là-bas, c'est tout. Deux, trois policiers là-bas, c'est tout. Ça suffit pas, ça. Je comprends pas.
Un manque de moyens humains flagrant et une désorganisation totale ce soir-là déplorent certains Niçois comme Nadège Dury.
Il y avait vraiment un laxisme total. Quelques policiers qui dégainaient, qui tournaient comme ça. Ils tournaient, ils ne savaient même pas où aller.
Mais là où la polémique prend un autre tour, c'est quand l'adjoint Les Républicains à la ville de Nice, Christian Estrosi, martèle que le nombre de policiers promis par le ministère de l'Intérieur n'a pas été respecté.
L'État avait dit qu'il mettrait les mêmes moyens que pour l'euro et pour Carnaval. Ils m'ont garanti qu'ils y seraient et force est de constater que tel n'a pas été le cas. Il y a des questions auxquelles il faudra que le gouvernement apporte des réponses. Et l'enquête démontrera que ces moyens n'ont pas été mis en œuvre.
Et la préfecture des Alpes-Maritimes dément, oui, les effectifs promis étaient présents, lit-on dans leur communiqué, avec 64 policiers nationaux et 20 militaires de l'opération Sentinelle, en plus des 42 policiers municipaux déjà sur place, comme cela avait été décidé lors de 3 réunions locales de préparation.
Michel Tchalinov, vous l'avez constaté, cette fois-ci, le monde politique n'a pas fait bloc derrière le gouvernement. Les candidats aux primaires du parti Les Républicains, notamment, ont fait assaut de propositions pour lutter contre le terrorisme, non sans une certaine surenchère, dirons-nous. En tout cas, l'état d'urgence a été prolongé pour 6 mois. Valérie Gasse.
L'état d'urgence, oui, mais un état d'urgence renforcé. Pour la droite, l'attentat de Nice a montré la nécessité d'adopter des mesures plus dures contre le terrorisme. C'est donc ce qu'Éric Ciotti a demandé à Manuel Valls.
Nos concitoyens savent que la guerre ne se gagne pas avec les armes de la naïveté.
Adopter une loi d'exception, changer la constitution, certains à droite y sont prêts, mais Manuel Valls a répondu non.
Faire bloc autour de nos valeurs, c'est également refuser toute tentation de recourir à des mesures arbitraires.
Le Premier ministre s'est aussi montré offensif.
Si ici, dans cet hémicycle, il y a quelqu'un qui est capable de dire qu'il a les moyens pour arrêter le terrorisme en quelques jours ou en quelques semaines, par démagogie, qu'il le dise.
Une attitude à laquelle Laurent Wauquiez a répondu par la provocation.
La vraie différence entre vous et nous, c'est que vous, vous invoquez les libertés personnelles des terroristes. Nous nous disons, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la République.
Bronca dans l'hémicycle, intervention du président Claude Bartolone et réponse de Manuel Valls.
Monsieur Wauquiez, je ne crois pas que ce soit un dérapage de votre part. Je pense que c'est une stratégie. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là.
La prolongation de l'état d'urgence a finalement été votée par les députés dans l'agressivité et sans sérénité.
Alors Michel, on ne peut pas dire, Michel Tchaninov, que certains hommes politiques sont sortis grandis de ces derniers jours. Hein.
Non, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on est en train de basculer évidemment dans des passions. Alors ces passions, elles sont tout à fait compréhensibles puisqu'il y a des attentats aveugles, monstrueux, qui touchent des innocents. La question, c'est quelles passions vont naître de ces attentats. Et moi, je pense qu'il y a deux grands types de passions. D'un côté, il y a cette passion qui a animé d'ailleurs les dissidents que les Grecs appelaient le thumos. Le thumos, vous savez, c'est ce qu'on appelle le cœur, dans le sens où quand on dit Rodrigue, as-tu du cœur? Le courage. Le thumos, c'est une forme d'indignation, de colère, qui pousse à agir de manière courageuse. C'est la colère de celui qui va se battre, mais de manière courageuse et parce qu'il est indigné. Puis de l'autre côté, il y a effectivement quelque chose qui est très différent et qui est en train, malheureusement, de se passer chez une partie des cœurs des Français. C'est non pas cette volonté d'ardeur et d'indignation, mais quelque chose comme de la haine. Quelque chose comme de l'affolement, quelque chose comme de la volonté de trouver des boucs émissaires. Et malheureusement, c'est évidemment cette deuxième passion que veulent provoquer les terroristes. Les terroristes veulent que le consensus social explose en France. Ils rêveraient qu'il y ait des attaques contre les musulmans français, etc. Donc, on est dans un piège tendu par les terroristes. Et je pense qu'effectivement, si on ne peut pas totalement s'abstraire des passions, il faut essayer d'aller vers des passions qui nous grandissent.
Parce que jusqu'ici, en 2015 en tout cas, après les deux gros attentats très sanglants, abjects que la France a connus, personne n'a voulu faire de polémique. Cette fois-ci, dès le soir même, la polémique a enflé.
Oui, parce que d'abord, pour deux raisons. D'abord parce que les présidentielles approchent et que les candidats vont faire de la surenchère pour
les
être...
Les primaires chez les républicains,
puis en général à droite et à l'extrême droite, qui va être le candidat sécuritaire pour lequel vont peut-être voter en masse les Français aux prochaines présidentielles d'un côté. Et puis effectivement la répétition, c'est-à-dire que moi ce qui m'inquiète, c'est de savoir ce qui va se passer s'il y a un nouvel attentat dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Et il y aura certainement de nouveaux attentats, malheureusement. Et donc est-ce que le peuple français et les responsables politiques seront capables d'orienter justement leur réaction vers des passions qui sont évidemment des passions qui visent à réveiller le peuple face à la menace terrorisme, mais pas à sombrer dans la haine de tous contre tous.
Alors, ce qui compte aussi, c'est d'être économe de ses paroles, sans doute, Michel Tchaninov, parce qu'au début, dès le 14 juillet, dès le 15 juillet, on a parlé d'un acte isolé, d'un fou qui était dépressif. Aujourd'hui, on en est à l'arrestation de 5 personnes de son entourage et qui ont été mises en examen. Donc, là aussi, il faut se méfier des interprétations hâtives. Et des explications douteuses.
Oui, c'est vrai, il faut laisser l'enquête faire, sachant qu'en plus la situation est très compliquée parce qu'on est dans ce que j'appelle une sorte de causalité atmosphérique, c'est-à-dire que Daesh fait des appels au meurtre en espérant que des individus isolés y répondent, et donc le rapport entre le commanditaire Daesh et les acteurs terroristes est très difficile à faire. Est-ce que ce sont des déséquilibrés ou pas? Est-ce qu'ils ont agi seuls ou à plusieurs, etc. Donc on est dans une causalité terroriste qui est assez complexe, en fait.
Alors, il y a le terrorisme que la France, hélas, connaît. Il y a aussi ceux qui luttent pour la démocratie. Et là, on en revient à ces dissidents que vous avez rencontrés, quelques-uns d'entre eux, en tout cas, dans le monde. Je voudrais avant de partir en Afrique, on aime bien voyager dans cette émission, avec quelquefois un grand écart. Je voudrais qu'on parle un peu de ceux qui se battent pour la démocratie à Hong Kong. Parce que là, c'est d'actualité. Vous me disiez tout à l'heure que l'un d'entre eux risquait la prison.
Oui, on a appris il y a quelques jours que les trois leaders de ce qu'on a appelé le mouvement des parapluies, donc il y a 2 ans, hein, c'était en 2014, il y a eu un grand mouvement en fait étudiant qui visait à protester de manière totalement pacifique d'ailleurs contre en fait une nouvelle loi électorale qui allait, avoir pour conséquence la mainmise de Pékin sur un territoire qui quand même reste relativement autonome aujourd'hui. Donc il y a une protestation des Hongkongais contre cette mainmise de Pékin avec 3 jeunes étudiants, donc dont j'ai rencontré un des trois à Hong Kong l'année dernière. On a longuement discuté. Il m'a dit que pour lui, il allait avoir des ennuis judiciaires. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, on a appris que ces 3 leaders étudiants risquaient 5 ans de prison, étaient reconnus coupables par le tribunal et le 15 août prochain sauront quelle sera leur peine. En tout cas, ils sont reconnus coupables pour avoir participé à une manifestation illégale et donc ils risquent 5 ans de prison. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la mainmise de Pékin sur Hong Kong se fait de plus en plus forte.
Depuis la rétrocession de 1997, où Hong Kong bénéficiait d'un régime particulier, là, visiblement, Pékin veut instaurer son ordre.
Depuis quelques mois, il y a plusieurs signes très inquiétants qui montrent qu'elle veut instaurer son ordre, notamment des enlèvements absolument illégaux d'éditeurs et de libraires hongkongais qui ont été enlevés par les services spéciaux chinois. Et puis là, il y a quelques jours, la condamnation certaine de trois étudiants qui ont manifesté pacifiquement à des peines qui vont peut-être aller jusqu'à la prison. Donc effectivement, en Chine aussi, avec le pouvoir de plus en plus fort de Xi Jinping et un culte de la personnalité qui augmente, on assiste à une rigidification du pouvoir qui est également là encore assez inquiétante.
Alors, puisque vous avez une tendresse particulière pour ceux qui luttent pour la démocratie en Ukraine, j'aimerais que l'on parle du mouvement de Maïdan, parce que là aussi vous êtes allé, et je parle de l'Ukraine parce que cette région du monde est encore dans l'actualité, parce qu'il y a eu de nouveaux affrontements ces derniers jours entre les Russes et l'armée ukrainienne.
Ah, effectivement, la révolution ukrainienne n'est pas un acte de dissidence, mais a été un grand moment de libération d'une tutelle un peu trop pesante du grand frère russe sur la politique ukrainienne.
Maïdan.
Maïdan, c'est ces gens de toutes sortes. Hein. Moi, j'y étais. Il y avait des étudiants, mais aussi il y avait des vieilles dames, des vieux monsieur qui apportaient des couvertures, qui servaient du café, parce qu'ils pensaient que le pouvoir d'alors du président Yanukovych était totalement corrompu et trop obéissant, disons, à l'endroit de Vladimir Poutine. Alors aujourd'hui, on est dans une situation terrible parce que d'abord, il y a une guerre. Il y a une guerre qui continue à faire des morts.
On l'oublie, mais elle continue.
Elle continue. Il y a des morts chaque semaine dans le Donbass. Donc une guerre entre les séparatistes pro-russes armés par le Kremlin et l'Ukraine et Kiev. Il y a une guerre, il y a des tortures. Il y a une corruption, malheureusement, qui continue dans le pays. Il y a des journalistes assassinés. Il y a quelques jours, il y a un journaliste indépendant, russe d'ailleurs, qui vit à Kiev, qui s'appelle Sheremet, dont la voiture a explosé et qui est mort dans un attentat. Vous vous rendez compte? Donc, il y a encore des meurtres de journalistes. Il y a une population qui est lasse parce que les choses ne changent pas assez vite. La corruption reste importante. Et puis enfin, il y a ces fameux accords de Minsk qui ont été décidés en 2014 grâce à Angela Merkel et François Hollande, avec les présidents ukrainiens et russes, qui aujourd'hui ne sont pas mis en place parce qu'il y a une mauvaise volonté évidente des deux côtés. Et donc, on est en train d'assister à un pays qui s'enfonce malheureusement dans la crise qui, pour l'instant, est loin d'être résolue.
Une crise de plus.
Une crise de plus, avec cette volonté de la part de Vladimir Poutine d'empêcher certains pays qui appartenaient autrefois à l'Union soviétique de se rapprocher de l'Europe. La Géorgie, depuis la guerre de 2008, aujourd'hui l'Ukraine, peut-être la Moldavie, c'est-à-dire qu'il y a des puissances régionales, comme aujourd'hui la Russie de Vladimir Poutine, qui ne veut surtout pas que des gouvernements et des peuples se rapprochent des valeurs européennes.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons parler de l'Afrique maintenant, Michel Elchaninov. Partons en Libye, où on a appris mercredi la mort dans un accident d'hélicoptère, selon le ministère de la Défense, de trois soldats français. Alors, que fait la France dans ce pays divisé, Olivier Four?
À ce stade, la Libye n'est pas encore devenue un pôle d'attraction pour les djihadistes français. On ne voit pas vraiment de flux entre la Syrie et la Libye, confié récemment à RFI une source militaire française. Mais alors que des cellules de l'EI ont été chassées de leur fief de Sirte, l'ONU redoute que ces djihadistes s'installent ailleurs en Libye ou en Afrique du Nord. La France, comme les États-Unis et d'autres pays européens, ont donc décidé de garder un œil sur la Libye. Fin 2015, Paris avait reconnu mener des vols de reconnaissance depuis le porte-avions en Méditerranée, mais aussi, selon nos informations, depuis le Tchad. Aujourd'hui, la France est forcée de reconnaître qu'elle a envoyé des forces spéciales en Libye et qu'elles opèrent très près des zones de confrontation. Les trois victimes sont certainement des membres du service action de la DGSE, opérant clandestinement aux côtés des forces du général Khalifa Haftar. Soutenu par l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, le général Haftar combat l'organisation de l'État islamique, mais refuse toujours de rejoindre le gouvernement libyen d'Union nationale. Ils ont bien quelques MiG et des hélicoptères, mais manquent de munitions efficaces. Méfiez-vous des communiqués de victoire de la force Haftar. En réalité, elle n'a pas remporté beaucoup de batailles autour de Benghazi, conclut notre source.
Le Mali, maintenant, 17 soldats maliens ont été tués dans l'attaque d'une base militaire du centre du pays par des djihadistes. Selon le gouvernement, un deuil national a été décrété. Laura Martel.
C'est vers 5 heures du matin que l'attaque a été lancée par des assaillants en nombre. Des témoignages font état d'une quinzaine de pick-up et de plusieurs motos. Le feu a été nourri puisque les tirs ont été entendus jusqu'à la frontière mauritanienne à une cinquantaine de kilomètres. Une fois entrés dans la base, les assaillants ont incendié certains bâtiments et se sont emparés de matériel. Certains soldats ont pu se replier vers Diabali, une localité située à une centaine de kilomètres. Mais selon le porte-parole du gouvernement, l'armée était déjà parvenue à reprendre la ville en début d'après-midi. Et je cite, une riposte d'envergure était en cours. L'attaque a été revendiquée par l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. Selon un de ses porte-paroles, elle avait pour but d'attirer l'attention du gouvernement sur des exactions dont serait victime la communauté Peul. Le groupe se dit d'ailleurs prêt à des pourparlers avec les autorités. Cette revendication et sa nature communautaire sont à prendre avec une extrême prudence. Plusieurs spécialistes s'interrogent sur la capacité de ce mouvement à mener seul une telle action et soulignent la tendance de groupes terroristes comme ACMI ou Ansar Dine d'instrumentaliser certaines frustrations communautaires pour recruter. A noter d'ailleurs que la principale association culturelle Peul du Mali a déjà souligné qu'elle ne se reconnaît pas dans ce mouvement.
7 jours en Afrique.
Et si nous parlions maintenant du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, après 2 semaines d'interruption, il a repris mardi. L'ancienne première dame est poursuivie, je rappelle, pour crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Pour cette reprise, un ancien milicien pro-Gbagbo a déposé à la barre Abidjan Anna Sylvestre.
Pâle et amaigrie mais souriante, Simone Gbagbo n'a pas réagi face aux accusations du témoin. Jamais, pourtant, elle n'avait ainsi été mise en cause. À la barre, l'homme, grand, musclé, arrive menotté, Moïse Metch, était un des responsables du GPP, une milice de la galaxie patriotique pro-Gbagbo. Il raconte qu'en détention, il fait des insomnies, il pense trop, dit-il, à ce qu'il a vécu. Et il revient sur la disparition en 2004 du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer. Mon chef m'a dit que Simone Gbagbo avait commandité son enlèvement. Le corps de Kiefer a été brûlé sous ses ordres, assure-t-il, laissant la salle stupéfaite. Quelques instants plus tard, il affirme que c'est lui qui a été chargé de jeter le corps de l'homme d'affaires Yves Lamblin depuis un pont d'Abidjan en 2011. « Nous étions chargés de la répression, nous étions financés par Simone Gbagbo », répète-t-il. « Simone Gbagbo vous a-t-elle payé en main propre ?» demande alors la défense. « Non », répond-il, « mais mes chefs m'ont dit que cela venait de la vieille mère, c'est ainsi qu'on l'a surnommée. L'avez-vous déjà rencontrée ?» Non. Ce mercredi, Moïse Metch va continuer à faire face aux questions de la défense.
Ce procès est à suivre évidemment dans nos journaux. Refermons, Michel Etchaninov, cette parenthèse africaine avec la fin d'une époque en Guinée. Après un demi-siècle en effet de brouille, le pays a rétabli des relations diplomatiques avec Israël. Cela mérite une explication que nous a donnée notre correspondant à Conakry, Mokhtarba.
Les deux pays qui se sont brouillés il y a 49 ans renouent leur coopération avec la signature d'une déclaration conjointe sur la reprise des relations diplomatiques rompues au lendemain de la guerre des 6 jours en 1967. Des officiels guinéens interrogés par RFI n'ont pas souhaité commenter cette lune de miel entre les deux pays. Cette annonce intervient peu de temps après, on s'en souvient, une tournée historique de 4 jours du premier ministre israélien Netanyahou en juillet en Afrique qui a permis de resserrer les liens politiques et économiques avec un continent longtemps mal disposé à l'égard d'Israël. À la veille de cette tournée, Jérusalem avait annoncé allouer une enveloppe de 13 millions de dollars pour renforcer les relations économiques et la coopération avec l'Afrique. De quoi tenter les pays africains financièrement mal à l'aise ou économiquement en faillite, commente un diplomate guinéen. Chéquier en main, Netanyahou cherche donc à renouer avec les pays africains qui avaient pris leur distance avec Israël en raison des guerres de l'État hébreu avec ses voisins dont l'Égypte de Gamal Abdel Nasser et des liens unissant Tel Aviv au régime d'apartheid en Afrique du Sud.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à Wesley qui nous écoute à Port-au-Prince en Haïti, un fidèle auditeur de RFI et d'une semaine d'actualité et idées en particulier. Merci Wesley. Bonjour à Mademba à Thiès au Sénégal, à Auster à Abomey-Calavi, à Oumar à N'Djamena et à Taïrou au Mali. Suite d'une semaine d'actualité, nous allons continuer et finir de parler, mais c'est un sujet inépuisable, des dissidents avec vous, Michel Tchaninov, à propos de ce livre que vous nous proposez aux éditions Stock. Ces dissidents sont partout dans le monde, luttent pour la démocratie, luttent aussi pour la justice. C'est le cas, par exemple, de Dali qui, en Palestine, dans les territoires palestiniens, essaie à sa façon de lutter contre l'oppression.
Oui, tout à fait. Ali Abou Awad, donc c'est un militant en fait du Fatah palestinien qui vit près de Bethléem et qui a une démarche intéressante parce que d'abord il était un combattant qui servait des armes avant. Son frère a été tué par les soldats israéliens. Lui a fait beaucoup de prison parce qu'il était pour l'insurrection armée. Et puis il a vu que ça ne menait nulle part et donc il a décidé d'essayer la méthode non violente. Alors pas du tout parce qu'il s'est converti à une espèce de bouddhisme hallucinant. Non, il a fait ça par pragmatisme. Il a dit c'est beaucoup plus malin d'être non violent parce que quand vous faites une grève de la faim, eh bien, on peut rien contre vous. Et donc, il a vu que ça marchait, la non-violence, et donc il l'a rencontré près de Bethléem. Il est chez lui, ses parents, un petit morceau de terre. Il a construit une cabane de la non-violence. Et donc, il est là-bas, il est au cœur des colonies israéliennes. Et en fait, il reçoit énormément de gens, des Palestiniens, mais aussi des Israéliens, notamment des futurs conscrits, pour leur parler de la non-violence, en leur disant finalement, oui, on a un conflit territorial très fort, il va sans doute durer encore des années, mais moi, je vous propose de changer de méthode pour qu'on cesse d'être les victimes de notre propre violence.
Parce que lui reconnaît qu'Israël a droit à une terre aussi.
Oui, hein, il dit que ce qui est intéressant, c'est que Israël, évidemment, a aussi une forme de légitimité sur ses terres, et surtout, lui, est pragmatique. C'est-à-dire, c'est peut-être ça aussi qu'il distingue des dissidents d'il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'il parle à tout le monde. Il parle même à des colons. Il vit entouré de colonies, et il dit qu'il parle à certains colons, parce que justement, certains colons comprennent que seule une démarche fondée justement sur la non-violence pourra aboutir à quelque chose, même si évidemment, on est très loin d'une résolution du problème.
Alors, autre étape que vous abordez dans le livre, on ne va pas faire toutes les étapes du livre parce qu'il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup Rehan en Iran qui, elle aussi, lutte pour la démocratie dans un régime qui évolue, mais qui évolue lentement.
Oui, en Iran, effectivement, les femmes sont toujours obligées de porter un voile dans la rue, même si elles n'en ont pas envie. Et Rehan Taravati, c'est aussi quelqu'un d'intéressant parce qu'elle est aussi assez représentative de ce que sont les dissidents d'aujourd'hui, qui sont peut-être moins idéologues, moins politisés qu'il y a 30-40 ans. Rehan, c'est juste quelqu'un qui ne supporte pas qu'on la force à porter un foulard sur la tête. Et donc, elle l'enlève. Et donc, il y a quelques mois, à Téhéran, elle a décidé de tourner un petit vidéoclip avec ses amis sur sa terrasse de sa maison. Et donc, elle, avec trois garçons et deux filles, elles ont dansé et chanté, vous savez, sur cette fameuse musique de Pharrell Williams, Happy. Mm-hmm. Elles ont fait un petit vidéoclip, sauf que, manque de chance, ce vidéoclip a eu un succès énorme sur YouTube.
Et elles se sont fait remarquer.
Elles se sont fait remarquer, alors qu'au départ, elles voulaient juste s'amuser. Et donc, elle s'est fait arrêter, que son cas a donné lieu à une polémique entre les conservateurs et les réformateurs du régime, et qu'elle, en fait, elle manifeste justement cette nouvelle génération de dissidence qui n'est pas très politisée, dans le sens où elle me dit « moi, j'aime mon pays, j'adore l'Iran, mais j'ai envie de vivre heureuse. Donc si j'ai envie parfois d'enlever mon foulard, je l'enlève. » Et donc cette espèce de révolte parfois un peu légère comme ça, mais qui exprime un désir de liberté profond, et puis surtout qui se manifeste par des actions très courageuses. C'est-à-dire cette Rehan, elle n'a pas eu peur, elle continue à pas avoir peur des autorités, et donc elle est la porte-parole d'une jeunesse iranienne qui a envie tout simplement de vivre heureuse et comme tout le monde.
Alors c'est un aspect intéressant de votre livre, effectivement, Michel Tchaninov, c'est de montrer qu'il y a aujourd'hui une nouvelle vague de dissidents plus jeunes, moins idéologues, vous le disiez, mais tout aussi courageux et ancrés dans leur pays. Vraiment.
Oui, hein, c'est-à-dire que les dissidents, en fait, ils veulent d'abord changer leur société. Alors, c'est sûr qu'ils sont toujours minoritaires au moment où ils agissent. C'est-à-dire qu'ils appuient sur des points qui font mal à la société, mais quand la société ne s'en rend pas forcément compte. C'est pour ça qu'ils sont pas nombreux, c'est pour ça qu'on les traite d'idéalistes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est, en fait, durant toute cette émission, on a vu qu'il y avait quand même une sorte, peut-être, de début de basculement du monde vers des régimes beaucoup plus autoritaires, que même dans nos contrées, il y avait une forme de fatigue vis-à-vis de la démocratie qui pouvait avoir comme conséquence des autoritarismes grandissants, et que du coup, la dissidence, qui avait quand même disparu dans les années 90, parce que l'URSS était tombée, enfin, on avait un peu oublié ce terme, est en train de revenir, parce que les choses se durcissent un peu partout dans le monde. Et être dissident aujourd'hui, c'est justement sans armes, sans forcément avoir une idéologie, c'est vouloir manifester sa propre volonté de changer les choses à sa mesure.
Alors rappelons le vers de Victor Hugo que vous mettez en exergue, c'est un extrait des Châtiments, et Michel Etchaninov, « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ».
Oui, ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Et c'est vrai qu'il y a ça déjà chez Victor Hugo, c'est que être dissident, pour eux, c'est une manière d'être debout, de finalement de pas avoir honte d'eux-mêmes. Et ça, les dissidents soviétiques me l'avaient déjà dit, et les nouveaux me l'ont dit quand je les ai rencontrés. Être dissident, c'est pas du tout vouloir faire le héros, c'est juste ne pas avoir honte de soi et faire enfin dans sa vie quelque chose dont on peut être fier.
Merci Michel Etchaninov. Votre livre que je recommande s'intitule « Les nouveaux dissidents ». Il est publié chez Stock. Merci.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour la première de nos rediffusions d'été du magazine Idée. Pour vous donner une seconde chance en quelque sorte de les écouter, nous serons en compagnie de Carlo Stringer et nous parlerons de ce qu'il appelle le mépris civilisé. Demain dimanche, 15h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Rendez-vous également vendredi prochain avec le 4e numéro des Plaisirs du Journalisme, notre émission avec Claude Angéli du Canard Enchaîné, qui revient, vous le savez maintenant, sur quelques-unes de ses enquêtes. Vendredi, 14h10, temps universel, 16h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.
L'épopée des musiques noires.